Rock psychédélique à l'usage de ma fille. Une émission présentée par Will Z.
J'en suis à peine au démarrage de cette série, de cette enquête sur le monde dans lequel grandit Camille, ma fille de 3 ans, et déjà, l'actualité me rattrape, m'obligeant à me pencher sur l'entourage direct de mon label américain. Lors de la promo de sortie du dernier album de mon groupe, Black Moon Tape, j'avais évoqué la large distribution dont avait bénéficié notre premier album, The Salvation of Morgan.
Puis il faut le préciser, Black Moon Tape, bah, tu viens de le dire, c'est aussi pas mal de points de vente aux États-Unis. J'ai lu au Canada, au Mexique et même en Argentine.
Oui.
Est-ce qu'il y a une équipe derrière qui vous suit, qui vous supporte, qui vous aide dans tout ça? Ou comment ça se fait les liens là-bas, monsieur?
C'est vraiment une rencontre avec un gars qui a flashé sur l'album Damon et qui tient le Nomad Hill Records, donc un très jeune label là-bas.
Mm-hmm.
Et donc lui, il a des contacts sur place avec un label plus établi qui s'appelle Burger Records. Qui a sorti pas mal de choses et qui a sa petite réputation et son petit réseau, et donc il collabore avec eux, et voilà, c'est principalement via ce réseau-là que les Black Moon Tape est sorti.
Mais voilà, le 19 juillet, un compte Instagram compile des témoignages anonymes de femmes dénonçant des violences sexuelles de la part d'employés et d'artistes du label Burger Records, en partie responsable de la distribution du premier album de Black Moon Tape, donc. Les horreurs endurées par ces survivantes, certaines mineures, se succèdent. Drogue, alcool, coups, blessures, rapports sexuels non consentis dans l'arrière-boutique du label. Lorsque le scandale éclate, je me souviens que Régis Germain du groupe liégeois OSH, Out to Space Hustle, reçu dans cette émission, a sorti son dernier album chez Burger Records. Et contrairement à moi, Régis a eu des contacts directs avec l'équipe. Rapidement, je décide de le rencontrer pour discuter de cette sordide affaire avec lui.
Régis Germain, bonjour.
Salut.
Tu intervenais dans la toute première émission de Rock Psychédélique, c'était en 2018, voilà. Et on se revoit aujourd'hui pour des circonstances un peu moins joyeuses, puisqu'on va parler ensemble de l'affaire Burger Records. Le 20 juillet, on annonce donc de faits de viol, d'agressions sexuelles qui sont passés dans les locaux de Burger Records, qui sont passés avec des groupes phares de Burger Records.
C'est ça, ouais.
Comment tu apprends la nouvelle, toi?
Avec tous les groupes Burger, on a reçu un mail. Et donc, ils voulaient changer de nom. Et ils voulaient faire aussi un espèce de sous-label spécial pour les filles. Mais tu vois, c'était un peu maladroit comme truc.
Ouais.
Ils voulaient aussi créer des cellules d'accompagnement pour les victimes de viol. Ils ont annoncé qu'une femme prendrait la tête du label.
Ah ouais.
Une certaine Jessa, que je ne connais pas du tout. J'ai même pas répondu au mail sur le moment même, j'avais pas super envie. Puis le lendemain, on a reçu un mail de cette fameuse Jessa qui nous annonçait qu'elle n'avait pas envie de prendre en charge Burger.
Ouais.
Et donc du coup, on a reçu un autre mail de Burger pour dire que c'était fini.
Ouais.
Et que toutes les releases Burger allaient être virées d'internet, de toutes les plateformes de streaming, d'ailleurs mon EP n'y est plus, et que toutes les releases physiques allaient être détruites. Enfin,
carrément.
Ouais.
C'est le choc alors.
Ouais, ça a été carrément le choc. C'était la Californie, c'était, le truc à la cool. Et en fait, non. Je dois avouer que de la part de certains groupes qui ont été cités, ça ne me surprend pas des masses.
Pourquoi ça ne te surprend pas des masses?
Bah, parce que on sait bien que le milieu de la musique, des fois, c'est pas vraiment un environnement très sain pour, tu vois, pour des jeunes filles ou quoi qui sont fans de groupes, qui se retrouvent dans des backstage, et, tu vois, enfin, ce genre de truc, qui commencent à prendre des trucs et qui, voilà, machin bazar. Il y a beaucoup de silence, je pense, autour de tout ça.
Ouais.
Et je pense d'ailleurs que ce qui se passe autour de Burger, ce n'est pas du tout un cas isolé, complètement glauque et dégueulasse.
Et donc concrètement, vous, la suite, ça va être quoi alors, sans Burger?
Nous, ben, on se sent concerné parce qu'on faisait partie de cette famille-là d'une certaine manière, et que d'avoir été labellisé à un moment par Burger et d'avoir leur logo sur notre disque, tu vois.
Ben oui, c'est ça.
Ce logo qui sera à tout jamais associé à ça, quoi. Et ça fait chier. Enfin, on a bossé avec eux, on a sorti des trucs avec eux, mais c'était pas nos potes, c'est pas notre scène, quoi.
C'est ça, ouais.
On est belges, quoi, tu vois.
Ah, bien sûr, ouais.
Oui, on est belge. Oui, on est en 2020. Mais sans doute est-il temps que nous examinions de plus près l'héritage que nous ont laissé ces musiciens rock que nous admirons tant et que nous cessions de fermer les yeux quand ça nous arrange.
Disque 2 face A, soumise et insoumise.
Il y a eu ça. Et ça. Puis ça. Et ça. Tout en revenant à ça. Là, c'est certain, c'était fichu. J'avais 16 ans et le rock'n'roll, c'était devenu toute ma vie. Juste derrière, Internet a débarqué et j'ai découvert une multitude de disques qui ont changé ma vie. En voulant comprendre comment les disques que j'aimais étaient réalisés, j'ai appris d'autres trucs, moins glorieux. Je l'ai déjà évoqué dans Rock psychédélique à l'usage de mon fils d'ailleurs. Vous vous souvenez ? Frank Zappa est un contre-exemple. Un artiste inclassable. Il tentait de faire de sa réalité un mythe. Et pourtant...
J'aime les récréations. Je suis un être humain, tu sais. J'aime m'envoyer en l'air. Ma femme est au courant depuis plusieurs années. Je veux dire, il faut être réaliste au sujet de ce genre de choses. Vous êtes sur la route, vous rencontrez un tas de filles, vous revenez à la maison et vous découvrez que vous avez des morpions. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites rien à votre femme ? Non. Je rentre à la maison et je lui dis « Écoute chérie, j'ai des morpions, peux-tu aller à la pharmacie pour moi ?» Elle sort, me ramène des comprimés de pénicilline, je les prends et c'est tout. Elle grogne pendant un certain temps, mais tu sais, c'est ma femme. Ouais.
Le pire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un témoignage exceptionnel qui ne concernerait qu'une marge chez les artistes. Alors, faut-il séparer l'œuvre de l'humain ? Mais encore, faut-il penser, pour reprendre l'idée du projet Crocodile, la BD de Juliette Boutan et Thomas Mathieu, que tous les hommes sont de potentiels crocodiles empêtrés dans la dynamique d'une société sexiste. Peut-être. Pour continuer à avancer dans mes réflexions et rester fidèle à ma promesse de laisser la parole aux femmes pour cette série, je contacte par téléphone Sophie Rosemont, la journaliste derrière l'excellent livre Girls Rock, qui replace les femmes au cœur de l'histoire du rock, leur histoire, autant que celle des hommes.
Allô, allô ?
Allô, Sophie ?
Oui, bonjour, oui, ça va ?
Ça va et toi ? Je te dérange pas, ça va ?
Non, pas du tout, alors je confirme dans mon nom.
Bienvenue au club. Bah écoute, on va faire comme si ça commençait, de la manière la plus naturelle possible.
Voilà, je suis prête, c'est bon.
Sophie Rosemont, bonjour.
Bonjour Will.
Pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, tu es journaliste, notamment pour Rolling Stone, Vanity Fair, Les Un Rock, chroniqueuse sur France Culture, et tu as participé au nouveau dictionnaire du rock, la version actualisée de l'ouvrage de référence dirigé par Mishka Assayas.
Tout à fait.
Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble ton excellent livre Girls Rock et le suivant, Black Power, qui sortira la semaine prochaine chez GM Éditions. Mais avant ça, j'aimerais revenir avec toi sur le point de départ de cette émission, qui est l'affaire Burger Records. Alors, c'est quoi ton sentiment sur le sujet ? Et d'après ton expérience de journaliste, est-ce que toi aussi, tu as l'impression que c'est loin d'être un cas isolé ?
C'est vrai, concernant Burger Records, c'est assez choquant, parce qu'il ne s'agit pas seulement que d'artistes, enfin de musiciens issus des groupes dont s'occupait le label, mais aussi d'apparemment certains membres même du label, de la boutique. Il y a aussi des mineurs qui sont concernés. C'est pas joli, joli. Et en même temps, est-ce que c'est réellement surprenant ? C'est-à-dire que ce genre d'attitude a cours depuis des années, des décennies, des siècles, que ce soit dans la musique ou ailleurs. Le machisme, la manière de considérer les femmes comme acquises dès leur plus jeune âge, le fait de pas du tout considérer mineure comme une mineure du moment où elle a l'allure, on va dire, du majeur, sachant que tout se joue à quand même un fil, c'est ancré, voilà, c'est profondément ancré. Mm-hmm. Mais c'est vrai que là, dans l'affaire Burger Records, qui par ailleurs est un super label et qui a beaucoup œuvré pour des artistes qu'on aime beaucoup, je ne parle pas uniquement de toi, et puis, mais aussi d'Américains, parce qu'évidemment, ils distribuaient beaucoup d'Américains, que c'est un nom, sur la côte ouest et sur la scène alternative américaine et internationale, comme ton expérience avec eux a pu le prouver, et c'est extrêmement dommage et extrêmement triste qu'ils ferment. Et d'un côté, je trouve ça finalement assez logique, Après, il y a toujours des choses qui sont un peu étonnantes. La vie Buffalo, le label a décidé, donc Sub Pop a décidé de retirer la musique. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, sachant que il y a notamment ce premier album merveilleux auquel a participé cette musicienne et brillamment participé, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas un peu tard? Comment ont-ils pu passer à côté de quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Non, en tout cas, non, c'est pas du tout anodin, c'est pas du tout rare dans ce monde qui est le nôtre. Et il est très bien qu'on puisse enfin lever plus haut les boucliers et surtout montrer qu'on les lève et que c'est plus possible d'agir de la sorte avec nous.
Ouais. Alors Sophie, tu es donc derrière Girls Rock, un magnifique livre qui ne présente pas, qui se présente pas comme un dictionnaire, mais par chapitre, selon des thématiques comme Muse mais pas trop, Bande de filles, Le capitaine est une femme. Tu te lances dans Girls Rock parce que tu t'es rendu compte que les musiciennes sont finalement peu mises en avant dans les bouquins consacrés au rock.
Oui, tout à fait. C'est fou de voir à quel point c'était... à quel point les artistes avaient pu être très engagés, voire radicales dans leurs propos, à quel point elles avaient inspiré d'autres artistes féminines, mais en étant parfaitement ignorées par les hommes.
Oui, on a vraiment l'impression, voilà, comme si c'était un roman, en fait, avec des chapitres, et donc c'est une approche qui m'a beaucoup plu. Donc le seul léger reproche pour moi, c'est que tu donnes la parole à des musiciennes françaises d'aujourd'hui qui sont influencées par des rockeuses,
oui,
mais dont la musique est éloignée du style. Alors
oui,
pourquoi ce choix? Parce qu'il existe quand même pas mal de groupes rock féminins en France, en Belgique, mais c'est juste qu'ils sont pas mainstream, donc ils sont plus alternatifs.
Oui.
Et bon, c'est un peu la place qu'a le rock de nos jours dans nos pays, je pense, non?
Oui, bah, justement, c'était un choix assez conscient.
Oui.
Et je crois que cette idée m'est venue quand j'avais fait cette interview de Jane pour un magazine de mode. Voilà. Et à un moment donné, on parlait de cette influence et elle a commencé à me parler de Janis Joplin d'une manière complètement enflammée.
Oui.
Et après, en rentrant chez moi, j'ai remis ça, je me suis dit, mais en quoi c'est étonnant en fait? En quoi une artiste pop d'aujourd'hui n'a pas le droit d'être influencée par une rockeuse des années 60?
Ouais.
Je connaissais très bien ses lives, regardais ses vidéos en boucle, et j'ai trouvé ça assez génial. Et je me dis, mais pourquoi, en fait, plutôt que de chercher des intervenantes qui font la même musique que les femmes dont je parle, prendre des intervenantes qui ne font pas forcément ces musiques et prouver qu'en fait, les rockeuses n'influencent pas forcément que les rockeuses.
Ouais, ouais.
Surtout aujourd'hui, hein, c'est quand même plus acceptable qu'avant.
Maintenant,
d'ailleurs, on voit bien les jeunes écoutent pas forcément des albums en entier. Ma fille écoute aussi bien l'homme pâle.
Oui, oui, je suis là pour faire mon trou comme le Poppers.
C'est plus fragmenté comme ça l'a été dans les années 90 où là il fallait choisir ton camp, quoi.
Exactement. Ouais.
Et c'est très bien.
Bah,
et
voilà,
c'est très bien.
À mon époque, les années 90 ou 90, j'aime beaucoup les termes 90 en tant que française. Voilà.
Je vais traduire si tu veux.
Mais je connais et j'adore. Je trouve ça beaucoup plus joli, non, mais je trouve ça beaucoup plus joli que les années 90. Et bref, en tout cas, donc moi j'étais ado effectivement dans les années 90 et j'écoutais beaucoup de rock 70, hein, j'écoutais Morrison, etc. Mais quand j'ai commencé à écouter des choses un peu différentes, comme du skatecore, Doggy Dog, etc., déjà c'était un peu différent, c'est pas tout à fait la même chose. Et quand j'ai commencé à écouter du rap, c'était pas les mêmes chapelles du tout. Alors
non,
que maintenant, c'est beaucoup plus poreux, les limites sont extrêmement poreuses, c'est hyper intéressant.
Lorsqu'on s'intéresse aux origines du rock'n'roll, on croise des noms comme Elvis, Chuck Berry, Little Richard, mais jamais Rosetta Tarp. C'est pourtant la première qui va proposer ce mélange de gospel, de blues, qui va devenir le rock, et c'est surtout la première qui va s'accompagner d'une guitare électrique, ce qui aura une importance décisive sur Chuck Berry et sur Elvis. Il y en a d'autres aussi, Willie Mae Thornton, qui a interprété Hound Dog avant Elvis.
You ain't nothing but a hound.
Alors pourquoi on croise pas ces noms plus fréquemment?
Déjà, il y a une question sans doute historique et archiviste, si je puis dire. Sister Rosetta Tharpe, c'est quand même une femme qui a évolué majoritairement au début milieu du XXe siècle, elle est née en 1915.
Ouais.
C'était une femme, elle était pauvre et elle était noire.
Ouais.
Donc autant de raisons pour ne pas être écoutée, respectée. Elle a connu la ségrégation quasiment toute sa vie.
Oui.
C'est quand même très difficile de se faire un nom et d'être reconnu. Comment des historiens majoritairement hommes et blancs, jusqu'au moins la moitié du XXe siècle, ouais, auraient pu s'intéresser à cette femme, aussi importante puisse-t-elle être? Sister Rosetta, c'est pour moi une des plus grandes injustices de l'histoire du rock'n'roll et donc l'histoire de la musique. 2018, son intronisation au Rock'n'Roll Hall of Fame, c'est une honte. C'est vraiment une honte,
ouais,
qu'on ait dû attendre aussi longtemps pour qu'elle soit reconnue. Et d'ailleurs, Sister Rosetta Tharpe, c'est aussi le point de départ de Black Power, hein, d'une certaine manière.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est là où tes deux livres se rejoignent. Donc le premier, Girls Rock, et le deuxième, Black Power, puisque ce sont des femmes, mais ici, ce sont des femmes noires qui devaient en plus se battre contre le racisme.
Oui, complètement. C'est des Bessie Smith qui a dû chasser le Ku Klux Klan dans ses concerts, Ma Rainey, Gladys Bentley, comme tu dis justement, Banana Phantom, c'est Hound Dog, elle a touché quoi, $3, c'est une plaisanterie. Elles ont été non seulement ignorées, mais aussi quelque part exploitées, expoliées. Et de toute façon, on est expoliées quand on ne nous reconnaît pas dans l'histoire.
Alors, une des théories, c'est que le rock aurait été façonné par le patriarcat. Donc, par conséquent, il serait plus compliqué pour les femmes de s'infiltrer. Et alors, on va peut-être citer ici Shirley Manson qui ouvre ton livre Girls Rock, la chanteuse de Garbage. Il ne suffit pas qu'une femme, dit-elle, soit une grande compositrice. Il faut aussi qu'elle soit, je la cite donc, baisable pour qu'une maison de disques s'y intéresse. Et ça, pour elle, c'est le patriarcat dans tout ce qu'il a de plus terrifiant. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision?
Complètement. Le problème ne vient pas forcément du public, ça vient des labels.
Et des médias aussi, peut-être, non? Parce que les médias étaient majoritairement masculins, donc ils mettaient davantage en avant les hommes en leur attribuant les mérites. Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu trouves que ça a évolué aujourd'hui, ça, au niveau des médias ou...
Petitement. Vous voyez, il y a toujours une amélioration, une évolution, mais c'est vrai qu'on consacrera spontanément dans la presse musicale moins de pages à une femme qu'à un homme. Ouais. Mais après, il y a aussi... alors là, pour le coup, le lectorat rentre aussi. J'ai eu des discussions avec des rédacteurs de certains sites pour lesquels je collaborais, en disant, mais pourquoi elle, on la mettrait pas en couve? Mais parce qu'on a déjà mis des femmes en couve et que ça se vend beaucoup moins, 30 à 40% de moins.
Ah bon.
Oui, donc là, le public, effectivement, rentre en compte. Cependant, qu'un directeur de label décide qu'une femme, elle doit porter du rouge à lèvres, des jolies robes, si possible courtes, des talons, être mignonne et se contenter de chanter derrière un micro en faisant des petits clins d'œil au premier rang, si possible masculin, ça, oui, ça joue beaucoup. L'homme a toujours ce petit côté un peu patriarcal, un peu paternaliste, ouais, dans le meilleur des cas, pour nous expliquer la vie à nous les femmes.
Ouais.
Et moi, je ne suis que journaliste. Alors, je imaginais pour une artiste à qui on va expliquer, ah, tu sais, tu devrais plutôt faire ces accords-là, je pense que ça serait mieux. Et puis, ça serait mieux que ton clip, il soit comme ça.
Ouais.
En fait, on entend beaucoup plus de la part, en tout cas quand on est artiste, et ça je me permets de m'exprimer à la place des artistes, mais parce qu'elles m'ont dit toutes, elles ont dû à chaque fois subir les bons conseils, si ce n'est carrément des interventions indésirables de la part de patron de label, directeur artistique, producteur, arrangeur ou même un gestion. Mais enfin, n'importe qui pouvait toucher à leur musique, à leur manière de faire. Kim Deal me disait que, bah, d'après elle, le problème, justement, ce sont avant tout les médias et les promoteurs. Et voilà, elle a été dans les deux cas. Un groupe mené par un homme et un groupe mené par des femmes, et elle a bien vu la différence.
Ah oui.
Les promoteurs programmaient beaucoup plus les Pixies que les Breeders. Voilà, et elle n'avait jamais compris pourquoi. Elle voyait bien qu'il y avait moins de place accordée aux Breeders quand elle donnait des interviews dans le cadre des Breeders que pour les Pixies. Après, comme elle dit, ça ne l'a pas empêché de mener sa carrière. Ça lui a même donné un peu plus de force. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est génial, les artistes féminines sont hyper fortes. Oui. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, qu'elles, mm-hmm. Qu'elles vendent de plus en plus de disques, qu'elles sont de plus en plus programmées, même si on est encore loin du compte, évidemment, et qu'on a des succès féminins. Et je trouve ça vraiment très encourageant.
Alors, outre l'aspect invisibilisation des femmes dans le rock, une autre thématique qui, moi, me hante, c'est faut-il séparer l'artiste de son œuvre ? Alors, on l'a un peu évoqué ensemble avec Burger Records. Est-ce qu'il faut vraiment bazarder l'entièreté du catalogue ? Bon, si j'observe mon panthéon personnel, il y a Syd Barrett, le leader de Pink Floyd, qui a énormément influencé mon jeu à la guitare et ma manière de produire un morceau. Pourtant, il était décrit comme quelqu'un d'antisocial, de violent, qui écrasait la tête de sa petite amie sur le sol. Donc, malaise. Il y a Frank Zappa qui déclarait à propos des mouvements des femmes que le sol valable à ses yeux, c'est celui où il est à l'intérieur d'elles pendant qu'elles se tiennent au lit en faisant rouler leurs yeux. Il y a John Lennon qui reconnaissait avoir été un cogneur, qui battait les femmes dans sa jeunesse, qui disait que les personnes les plus violentes parlent sans cesse d'amour et de paix. Alors comment ne pas se sentir mal à l'aise quand on se rend compte que ces héros musicaux ont parfois agi au mieux comme de vrais idiots ? Ou au pire, comme des salopards? Est-ce qu'on peut pas se sentir trahi?
Bah, alors, c'est vrai que sur les exemples que tu donnes, moi, dire, bon, alors Zappa, oui, c'est vrai qu'il est un peu misogyne, enfin, même clairement misogyne. Ouais. Mais bon, Syd Barrett, c'est encore autre chose. Syd Barrett, je le vois pas du tout comme misogyne, mais plutôt comme quelqu'un qui a eu, voilà, des excès de violence, comme tout, personne dérangée mentalement. Et bon, moi aussi, je suis très, très fan de Syd Barrett. Et John Lennon, alors là, c'est vraiment la rédemption. Ouais. Avec Yoko Ono. C'est Yoko Ono qui lui a appris à avoir une conscience politique et féministe.
Ah oui, parce qu'il a écrit Woman is the nigger of the world. Voilà.
Après, il y a toujours eu des petits relents misogynes. Il a reconnu quand même très tard l'importance de Yoko Ono dans les paroles d'Imagine.
Imagine, oui.
Et donc, oui, là, ça fait 2 ans que ça y est, c'est officiel qu'elle y a participé. Mais enfin, il a dit dans un livre d'entretien fait très, très peu de temps avant sa mort, il me dit, oui, j'étais un sale con misogyne. Pourquoi j'ai pas voulu dire que Yoko, je m'étais inspirée clairement des poèmes de Yoko et qu'elle m'avait aidé pour Imagine, je sais pas. J'ai été con, je m'en veux. Bon, au moins, en tout cas, faute avouée est à moitié pardonnée, dirons-nous.
Oui.
Il ne s'agit pas non plus de choses, comment dire, je ne dis pas qu'il y a des échelles de gravité, mais il n'y a pas eu, en tout cas, à notre connaissance, de viol, oui. D'agression sexuelle, comme ça a été le cas dans les autres des affaires dont on a parlé. Mm-hmm. Après, est-ce qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre ? C'est une grande question qui est extrêmement épineuse et sur laquelle, en fait, moi-même, je n'ai pas vraiment de réponse. Très franche et surtout très très assurée à te donner, parce que c'est vraiment une...
T'es comme moi, quoi.
Oui, parce que je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait du génie. Après, sur la sympathie ou l'antipathie des artistes, parce qu'il y a aussi ça, hein, ça remet en jeu l'éthique et la moralité de ces gens-là. Mais comme beaucoup, les Zeppelin et les fans, et les Eagles, au secours les Eagles, avec des mineurs. Ça me répugne un peu.
Ouais.
C'est-à-dire que, bon, hormis le fait que je ne suis pas une grande fan des Eagles, donc quelque part, ça m'arrange. Hein. Les Eagles, je les trouve un peu dégueulasses. En même temps, leur musique m'a toujours...
Et dégueulasse aussi, c'est ça.
Pas dégueulasse aussi, mais disons que légèrement surestimé. C'est vrai que ça m'ennuie vite. Je pense qu'après, tu vas recevoir des mails d'insultes. Comment ça,
je pense la même chose que toi. Donc, les gens peuvent m'envoyer les mails d'insultes. Ça me dérange pas. Mais voilà, moi, j'ai souhaité réaliser cette série parce que je suis le père d'une petite fille. Donc, j'étais déjà sensibilisé à ce genre de sujet avant sa venue, mais là forcément je le suis encore plus, mais aussi parce que certaines artistes, certaines femmes m'ont rapporté des réflexions sexistes, du harcèlement, des violences verbales, physiques qu'elles vivaient au sein de la scène rock ou de leur sphère artistique aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans le rock ou dans la musique, toi qui as un point de vue, qui en a rencontré pas mal et qui a un point de vue peut-être plus extérieur.
Déjà qu'elle le fasse, c'est-à-dire que il y a beaucoup de femmes qui hésitent des années durant, donc qu'elles se posent pas de questions, qu'elles y aillent, mais qu'elles ne se rajoutent pas le combat d'être une femme. Elles le sont, elles font de la musique. Juste le fait d'être artiste, c'est déjà bien assez. Qu'elles se concentrent uniquement sur leurs propositions musicales et artistiques et sur rien d'autre.
Ouais.
Et il y aura que ça qui compte. Elles sont tout aussi douées que les hommes. Elles ont tout aussi autant de capacités qu'eux.
Oui.
Et elles ont tout autant de chances de réussir aujourd'hui.
Bien sûr.
On est en 2020 quand même. Et d'ailleurs, cette émission le prouve. Il y a des très belles réactions d'hommes. qui m'ont soutenu, que là mon nouvel éditeur pour Black Power est un homme, et que voilà, on peut tout à fait travailler en bonne intelligence, et que et je crois qu'il y a beaucoup de plus en plus d'hommes, en tout cas, qui sont réceptifs au discours féministe.
Ouais.
Et le fait qu'on puisse faire cette émission, avoir cette conversation aujourd'hui, parler de tout ce qu'on a parlé, en témoigne. Donc, être optimiste toujours. Et je crois en plus que je crois aussi que dans la musique, je crois qu'il y a des choses qui vont revenir, des musiques qui vont être écoutées. Qui aurait cru que le métal soit aussi justement aussi prolifique et populaire et générateur de revenus comme il l'est depuis quelques années. Moi, j'aurais jamais parié dessus.
Tous ces groupes des années 60 qui avaient totalement disparu et puis qui, grâce à Internet, tout à coup, sont revenus. Enfin, voilà.
Mais voilà, c'est ça. Il y a toujours des choses à faire. Et même si là, voilà, on est sur des musiques parfois qui, le hip-hop auto-tuné, on va dire, à ses limites et peut vraiment, nous offre pas vraiment ce qu'on attend de la musique. Mmh. Il n'empêche que c'est pas lui qui va rester. En numéro 1 des années, ce n'est pas possible, en fait.
Merci beaucoup, Sophie. Merci
beaucoup à toi.
J'aurais préféré, évidemment, te rencontrer en vrai, mais les circonstances font que ça n'est pas possible. J'espère vraiment de tout cœur que ce n'est que partie remise.
Tout à fait, avec grand plaisir. J'espère qu'on pourra te voir bientôt. Et merci encore de m'avoir invité. C'est vraiment super d'avoir pu parler aussi longtemps sur tous ces sujets-là.
Avec grand plaisir. Merci.